À 12h30 temps universel, 13h30 à Paris et Kinshasa, je vous passe le relais Nicolas Brousse pour toute l'actualité africaine.
Merci Charlotte Hydrac et à tout à l'heure, bonjour tout le monde. En RDC, la promesse d'un salaire minimum rehaussé, pourtant annoncé, ne sera finalement pas tenue, en tout cas pas tout de suite. Décision de la Première Ministre que l'on vous explique dans un instant. La RDC, dont l'Est est toujours en proie à des combats entre groupes rebelles et l'armée, pour ce seul début d'année, ils ont obligé 237 000 habitants à fuir. 237 000 déplacés supplémentaires en seulement 15 jours. Le HCR dénonce une situation alarmante. Face à cette situation, les États-Unis ont proposé d'étendre à l'Est de la République démocratique du Congo, le couloir de Lobito. Un ambitieux projet ferroviaire, incitation à la conclusion d'un accord de paix, mais selon la secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines, cette extension est aujourd'hui au point mort. Au Mali, 3 semaines après son enlèvement et alors qu'il devait lancer un mouvement pour le retour à l'ordre constitutionnel, l'opposant Ibrahim Nabi Togola demeure introuvable. Ses proches pensent qu'il est aux mains de la sécurité d'État du Mali. Afrique Midi, le grand journal du continent, bienvenue. On tourne ensemble la première page. En République démocratique du Congo, le SMIC devait donc être doublé dès le 1er février. Le salaire minimum devait passer de 2,5 à 5 dollars américains. Je dis devait car le ministre du Travail l'avait bel et bien annoncé, mais la chef du gouvernement, Judith Suminwa, s'y est finalement opposée. Pascal Moulégois, que s'est-il passé ?
Les fonctionnaires, agents de l'État et travailleurs du secteur privé se frottaient déjà les mains. Leur salaire allait doubler pour la plupart d'eux le mois prochain. Mais les refus de la première ministre, Judith Suminwa, reposent d'abord sur la forme. Elle souligne que son ministre du Travail ne peut décider unilatéralement d'une telle mesure et que seule la primature peut signer un tel décret. Et sur le fond, la chef du gouvernement affirme que ni les syndicats ni les conseils nationaux du travail n'ont été sollicités par les ministres avant la signature de son arrêté. Les patronats congolais des entreprises avaient déjà critiqué cette mesure allant jusqu'à solliciter du ministre une harmonisation des points de vue. Les ministres qui avaient pourtant assuré à RFI que la décision avait été prise à la suite d'un dialogue social engagé en octobre dernier avec les organisations patronales et les syndicats des travailleurs. L'objectif, selon lui, était de réduire l'écart croissant entre les salaires minimums et les coûts de la vie. La première ministre dit attendre des éléments saillants avant de signer un décret relatif au SMIC. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
La RDC, dont l'Est est toujours théâtre de combats entre l'armée et les différents groupes armés du Nord et du Sud Kivu. Combats qui ont déjà conduit plus de 237 000 habitants sur les routes depuis le début de l'année. Oui, 237 000 déplacés supplémentaires en 2 semaines. Résultat, le Haut Commissariat pour les réfugiés ne peut que s'inquiéter une nouvelle fois de ces déplacements massifs de la population dans l'Est du pays. Abdoulaye Barry est chef de bureau du HCR pour la région. Il a été joint par Paul Lorgerie.
Du côté du Sud Kivu, nous avons enregistré plus de 84 000 personnes déplacées suite aux affrontements entre les FRDC et le groupe rebelle Gumino. Actuellement, les deux provinces Nord et Sud Kivu comptent plus de 4,6 millions de personnes déplacées. Les conditions de vie dans les sites sont extrêmement difficiles avec des ressources très limitées pour le HCR et les autres acteurs. Nous pensons que des efforts doivent être faits pour que ces affrontements cessent. Parce que chaque fois qu'il y a eu des affrontements, c'est des déplacements de personnes. Tous les sites des IDP sont bondés et aussi beaucoup de déplacés sont actuellement dans des centres collectifs et d'autres sont hébergés dans des familles d'accueil.
La région aurait pu être concernée par un ambitieux projet ferroviaire mis sur les rails par Washington qui voyait un moyen de pacifier la région et accessoirement pour le président américain Joe Biden d'enregistrer une victoire diplomatique majeure avant de rendre lundi les clés de la Maison-Blanche. Christina Okello nous a rejoint en studio. Christina, vous avez pris connaissance d'une interview donnée aujourd'hui à l'AFP par Molly Fee, secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines. En clair, la Madame Afrique de l'administration sortante Biden. Et Christina, elle explique que cette expansion du couloir de Lobito est aujourd'hui bloquée.
Oui, Nicolas, dans son interview à l'AFP, Molly Fee affirme que Washington avait proposé des incitations positives aux deux pays pour parvenir à un accord. L'idée américaine était de développer un embranchement du couloir de Lobito jusqu'à l'est de la RDC. Un cadre bien négocié par les parties existe. Il était sur la bonne voie, déclare la diplomate américaine, mais Kigali s'en est éloigné. Le Rwanda a fait marche arrière Kenyans regrettent Molefi, rappelant que Paul Kagame ne s'est pas rendu au sommet de Luanda en décembre dernier. Et depuis, le Rwanda et le M23 ont gagné du terrain, éloignant encore davantage la perspective d'une paix durable dans l'Est de la RDC. Lors de cet entretien, Molefi déclare également que ce projet d'extension de l'Obito dépendait en grande partie de l'engagement de Kinshasa à contrer la FDLR, un groupe armé issu d'anciens responsables du génocide rwandais. Or, le pouvoir congolais n'a pas agi en ce sens, selon ses termes, forçant les États-Unis à tout remettre à plat.
Les précisions en direct de Christina Okello. Alors que sa médiation entre la RDC et le Rwanda traverse justement un trou d'air, l'Angola peut au moins compter sur un partenariat renforcé avec l'Union européenne. Il a été en marge d'une réunion d'affaires au plus haut niveau entre l'Angola et la France à Paris hier, devant un parterre de chefs d'entreprise des deux pays et en présence du président angolais João Lourenço. Le commissaire européen aux partenariats internationaux Joseph Sikela a annoncé c'est l'allocation d'une enveloppe de 76,5 millions d'euros d'aide au développement à l'Angola. Un pari sur l'avenir qui s'inscrit dans la stratégie Global Gateway de l'Union européenne, comme l'a expliqué le commissaire européen.
La stratégie derrière le Global Gateway est de générer près de 300 milliards d'euros pour financer des projets chez nos différents partenaires. Et il convient de préciser que près de la moitié de cette somme est dédiée à des projets sur le continent africain. L'une des raisons est que les industries européennes se modernisent. On parle ici d'électromobilité, de l'accent mis sur les énergies renouvelables ou encore la digitalisation, des domaines qui nécessitent des partenaires fiables dans la fourniture de matières premières critiques. Donc, pour éviter toute forme de dépendance vis-à-vis des puissances rivales ou de partenaires qui ne seraient pas fiables, nous devons diversifier nos sources d'approvisionnement et construire des partenariats stratégiques en créant des corporations mutuellement bénéfiques. L'accès aux matières premières critiques nous est donc donné tout en encourageant la mise en place de chaînes de production durables. Cela nous donnera l'assurance que notre partenaire en bénéficie afin de se développer économiquement.
Et sur ce dossier, rendez-vous sur RFI.fr pour retrouver l'entretien accordé par Tété Antonio, le ministre angolais des Affaires étrangères, et l'analyse de Didier Péclard, professeur de sciences politiques et d'études africaines à l'Université de Genève. Ils vous attendent tous deux dans la rubrique Grand Invité Afrique. En Centrafrique, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce matin dans les rues de Bangui. Une marche organisée par la coalition Touadéra 2025 pour demander au président centrafricain de se représenter en décembre prochain. Première marche du genre depuis le référendum constitutionnel du 30 août 2023. Au début de cette année, l'opposition centrafricaine avait, elle, demandé un dialogue politique avant de participer à cette élection. Proposition rejetée par la présidence qui estime que les conditions de participation au prochain scrutin sont fixées par la nouvelle constitution. Au Libéria sont en train de se dérouler les obsèques de l'ancien chef rebelle Prince Johnson, et ses obsèques ravivent des souvenirs douloureux. Figure controversée de la guerre civile des années 90, notamment pour son rôle dans l'assassinat brutal du président Samuel Doe, Johnson symbolise pour beaucoup l'impunité qui règne encore aujourd'hui dans le pays. Maxon Pacquiao, militant des droits de l'homme et fervent défenseur de la création d'un tribunal pour les crimes de guerre, déplore que Prince Johnson soit mort sans jamais avoir été jugé.
It's painful.
C'est douloureux de voir cette jubilation, la célébration d'un meurtrier, d'un criminel de guerre. C'est un coup dur. Je suis ému dans le sens où, après avoir investi tant d'années dans la création d'un tribunal des crimes de guerre et des crimes économiques pour le Libéria, afin que ceux qui portent la plus grande responsabilité dans la guerre soient punis, voir cet individu non seulement échapper à la justice, mais aussi être célébré comme un héros, c'est insupportable. C'est une douleur immense pour nous, ceux qui ont perdu des proches, des membres de nos familles tués par son initiative ou de ses propres mains. Comment les proches du feu Samuel Keido peuvent-ils se sentir aujourd'hui, alors qu'un homme comme Prince Y. Johnson s'en va sans avoir été jugé, sans que nous ayons au moins eu l'opportunité de lui poser une question simple? Pourquoi avez-vous fait cela au Libéria?
Au Mali, cela fait tout juste 3 semaines que l'on est sans nouvelles d'Ibrahim Nabi Togola, le président du parti d'opposition Nouvelle Vision pour le Mali, a été enlevé le 28 décembre dernier à Bamako, alors qu'il devait lancer un nouveau mouvement pour le retour à l'ordre constitutionnel. Des hommes armés, mais en civil, qui se sont présentés comme des gendarmes, l'ont embarqué dans un véhicule banalisé. Ses proches y voient l'ombre de la sécurité d'État du Mali. Abdoulaye Traoré est le président du RJS et vice-président de la coalition Djigiyakoura, dont le parti d'Ibrahim Nabi Togola est également membre. Actuellement hors du Mali car il est en exil politique, il est inquiet et en colère. Il répond à David Baché.
L'enlèvement de notre camarade, mon très cher ami, nous a vraiment outrés, scandalisés. Nous sommes inquiets. 3 semaines après, nous n'avons aucune information, ni nous, ses camarades politiques, ni sa famille, etc. Nous sommes très inquiets pour sa vie.
Les témoins qui ont assisté à son enlèvement décrivent les méthodes employées habituellement par la sécurité d'État, les services maliens de renseignement.
Bon, ça je ne saurais le dire, mais traditionnellement, nous savons quand même que quand une personne dans l'opposition, quand il dit des choses qui ne conviennent pas vraiment aux tenants du pouvoir, donc c'est cette méthode qu'ils font très souvent. Nous avons eu des précédents, des camarades qui ont été enlevés comme ça. Donc ça vraiment, c'est scandalisant dans un pays où les tenants du pouvoir ne parlent que vraiment de la paix, de la cohésion, de la sécurité. Comment est-ce qu'un responsable politique peut disparaître comme ça en pleine capitale sans aucune nouvelle? Nous demandons aux tenants du pouvoir de tout mettre en œuvre pour ramener notre camarade sain et sauf.
Au Cameroun, après plus de 4 années de détention, elle a finalement retrouvé la liberté hier. Dorgelès Guessane avait été arrêtée le 22 septembre 2020 alors qu'elle manifestait pour la première fois de sa vie dans les rues de Douala à l'appel du parti d'opposition MRC de Maurice Kamto. Il contestait les résultats officiels de la présidentielle de 2018. Mais la manifestation avait été interdite par les autorités qui ont procédé ce jour-là à environ 500 arrestations à travers d'ailleurs tout le pays. Dorgelès Guessane, mère célibataire, coiffeuse, pas vraiment le profil, a pourtant été condamnée par la justice militaire à 5 ans de prison ferme pour insurrection. La cour d'appel du littoral a donc finalement cette semaine abandonné ses charges et ramené la peine à 6 mois d'emprisonnement, largement purgé. Pour Jean-Claude Fogneau, secrétaire exécutif de l'ONG Mandela Center International, c'est un cas emblématique de la répression au Cameroun.
Elle a exercé juste son droit de manifester, mais elle a été arrêtée pour le seul fait qu'elle ait demandé aux autorités camerounaises de mieux gérer le pays. Elle a purgé, passé pratiquement 5 ans en prison, alors qu'elle n'aurait jamais dû, je dis jamais dû, se retrouver dans ces lieux. Elle était la seule femme qui était encore en détention. Ces militants n'ont fait qu'exercer leur droit civique. Il s'agissait là d'une marche pacifique. Même s'il y avait ces manifestations illégales, mais la loi réprime ces manifestations pour un maximum de 6 mois d'emprisonnement. Mais ils ont passé plusieurs années en détention. Le pouvoir utilise le tribunal militaire pour réprimer toute dissidence, alors que selon les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun, aucun civil ne saurait être jugé par un tribunal militaire.
Propos recueillis par Amélie Tullet. Amnesty International de son côté rappelle que parmi les manifestants arrêtés en 2020, 38 sont toujours en détention arbitraire. L'ONG appelle à leur libération immédiate. En football, près d'un an après avoir été remercié de son poste de sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song a retrouvé une sélection. L'ancien capitaine des quintuples champions d'Afrique a été nommé cette semaine coach de la République centrafricaine. Que pense-t-on de ce rebond centrafricain dans le milieu du football camerounais? Réponse avec à Yaoundé, Joël Wadem.
La nomination de Rigobert Song a été globalement bien accueillie dans les milieux du football camerounais. Martin Tungupile, actuel entraîneur adjoint des Lions Indomptables, n'est pas surpris du retour de l'ancien capitaine du Cameroun sur un banc de touche.
Il a un grand nom en tant que footballeur, il a été chez les Lions. On est satisfait qu'il ait eu une nomination. Ça va lui faire un autre défi et ça va rentrer dans le travail de l'entraîneur.
Jean-Claude Pagal, ancien défenseur des Lions Indomptables, estime que l'ex-entraîneur du Cameroun sera face à un immense défi.
Au niveau où il était avec le Cameroun, se retrouvant en Centrafrique, il a beaucoup de travail à faire parce qu'il y a tout à construire. Je ne sais pas s'ils ont un championnat, ils ont autant de joueurs à l'étranger pour pouvoir rivaliser un peu avec le niveau actuel. On aurait aimé qu'ils trouvent un pays au niveau mondial un peu plus intéressant dans les 30 ou 40, à lui de travailler et de se faire plaisir surtout.
Rigobert Song, qui a coaché pendant 2 ans les Lions Indomptables, a amené l'équipe en 8e de finale de la dernière Coupe du Monde. Il a par ailleurs qualifié les quintuples champions d'Afrique à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Avant de prendre en main la sélection A du Cameroun, il a entraîné les A' et les moins de 23 ans, mais sans remporter aucun titre. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Éric Gauberson dirigera son premier match avec les Fauves du Bas-Ubangi au mois de mars. Ce sera face à Madagascar dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il est pile 12h44 en temps universel.
Afrique Midi. Nicolas Brousse.
Samedi 18 janvier, merci de rester avec nous pour la partie magazine. Dans un instant, à la une de Jeune Afrique, le retour de Donald Trump au pouvoir, vu du continent. La semaine de Jean-Baptiste Placa, marquée par la nomination de Christian Yoka, ministre des Finances du Congo-Brazzaville. Il était jusque-là directeur Afrique de l'Agence française du développement. Et puis un mot, une histoire, la sève est à l'honneur, choisie par l'invité haïtien de Lucie Bouteloup. L'Afrique se prépare au retour de l'ouragan Trump. C'est la une de Jeune Afrique cette semaine, alors que Donald Trump retrouve la Maison-Blanche après-demain lundi. Que va-t-il dire? Que va-t-il faire? Le monde entier observera avec attention ses premières annonces et décisions. Ce sera bien sûr le cas en Afrique. François Soudan, le directeur de la rédaction de JA, en parle à Catherine Poté.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Dans quel état d'esprit le continent appréhende-t-il ce retour de Donald Trump? Vous parlez d'une certaine perplexité comme d'un sentiment dominant.
Oui, alors d'abord, soyons réalistes, Catherine, le scepticisme à l'égard de Trump est beaucoup moins palpable en Afrique qu'en Europe, par exemple. Cela dit, c'est difficile de ne pas accueillir avec une certaine perplexité, c'est le mot, effectivement, le retour aux affaires d'un personnage aussi imprévisible, hein, pour qui tout est à vendre ou à négocier, et qui use en permanence du langage de la contrainte, de la pression, du rapport de force. Alors, s'ajoute à cela, concernant l'Afrique, un ADN fait de discrimination, de mépris, d'islamophobie qui n'a absolument pas varié. Certes, lors de sa campagne électorale, Trump n'a pas répété son effarante expression de pays de merde, mais il a parlé de pays infesté, ce qui est presque pire. Et il a relayé toute une série de fake news racistes, comme cette pseudo-conspiration selon laquelle le Congo, sans préciser lequel d'ailleurs, viderait ses prisons pour permettre à des criminels violents de venir aux États-Unis. Alors cela, les Africains le savent, et ils ne se font, si je puis dire, aucune illusion sur le personnage. Mais ce qui peut vraiment poser problème, c'est la politique commerciale ultra-protectionniste et anti-chinoise du président élu. Est-ce qu'il mettra fin, par exemple, à l'accord de libre-échange à Goa qui sera en attente de renouvellement à partir de septembre? Est-ce que les pays qui entretiennent des liens économiques étroits avec la Chine subiront des représailles? Comment éviter que la promesse de Trump d'accélérer la production d'énergie fossile aux États-Unis ne menace directement les projets pétroliers et gaziers africains? Sans compter, évidemment, Catherine, les graves conséquences qu'auront sur l'environnement et le climat le retrait annoncé des États-Unis des accords de Paris.
Alors, dans ces conditions, François Soudan, il y aura-t-il tout de même des gagnants en Afrique dans le cadre du retour de Trump au pouvoir?
Oui, le Maroc, incontestablement, hein, dans la reconnaissance de la souveraineté sur le Sahara occidental, sera sans doute conforté par l'ouverture d'un consulat américain à Dakar. Gagnant aussi, à condition qu'il sache négocier, les pays producteurs de minerais stratégiques et de terres rares, hein, qui sont une véritable obsession pour Donald Trump et Elon Musk, comme la République démocratique du Congo, la Guinée, l'Afrique du Sud et quelques autres. Et puis Catherine, paradoxalement, et même si elles sont soutenues par la Russie, les juntes sahéliennes de l'AES pourraient y trouver leur compte. Vous savez, entre un président Trump pour qui ni l'histoire, ni le droit, ni les valeurs démocratiques ne comptent réellement, et des régimes militaires souverainistes qui estiment que l'Afrique peut fort bien s'accommoder de la restriction des droits civiques et des libertés individuelles et qui considèrent la démocratie électorale comme un piège, il y a des similitudes, je dirais, idéologiques et des terrains d'entente que l'on ne devrait pas tarder à voir apparaître, Catherine.
Dernier point, François Soudan, quel profil pourrait incarner la politique africaine de l'administration Trump? Vous avez identifié deux personnalités.
Oui, il y a deux postes importants pour la politique africaine des États-Unis, celui de secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, département d'État, et celui de directeur Afrique au Conseil national de sécurité, qui dépend de la Maison-Blanche. Alors, pour le poste de secrétaire d'État adjoint, le nom le plus souvent cité est celui de Peter Pham, qui est une vieille connaissance, si je puis dire, un ancien envoyé spécial de Trump au Sahel dans les Grands Lacs, avec une casquette business assez voyante, puisqu'il est administrateur d'entreprises minières opérant en Guinée, en Afrique du Sud, au Burundi. Et pour le Conseil national de sécurité, celui qui tient la corde, c'est Joe Foltz, un ancien cadre de l'USAID, passé par la sous-commission Afrique de la Chambre des représentants, spécialisé dans le développement, l'agriculture et l'environnement. S'il est confirmé à ce poste, Joe Foltz, Catherine, a un petit défaut qu'il devra vite gommer, il n'est pas climato-sceptique.
Merci François Soudan, cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Le directeur de la rédaction de Jeune Afrique avec Catherine Poté. À 12h48, temps universel, nos dernières infos du monde. L'accord pour une trêve à Gaza est validé. Il entrera en vigueur dès demain matin. Il mettra fin, au moins temporairement, à 15 mois d'une guerre meurtrière et dévastatrice. 6 semaines d'arrêt dans une première phase avec l'échange de 33 otages retenus par le Hamas contre 737 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Pas de cessez-le-feu en revanche à l'horizon pour l'Ukraine. 3 personnes tuées dans une attaque russe à Kiev, annonce ce samedi du président ukrainien. Une frappe avec des missiles balistiques qualifiés d'odieuses par Kiev et de représailles par Moscou. Et on retrouve notre éditorialiste. Bonjour Jean-Baptiste Placat.
Bonjour Nicolas Brousse.
Au Congo-Brazzaville, un nouveau grand argentier vient d'entrer au gouvernement et tout le monde semble attendre des miracles de Christian Yoka, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Public. Jean-Baptiste, comment expliquer cette attente ?
Cette nomination a remis sous les feux des projecteurs le marasme dans lequel semblent baigner depuis bien trop longtemps les finances du Congo, avec une dette d'autant plus insupportable que ce pays, producteur de pétrole, semble avoir vécu au jour le jour, oubliant d'investir dans des infrastructures convaincantes et de faire des placements rentables. Qu'ont-ils donc fait des bienfaits dont la nature a doté leur patrie ? Tel qu'il se présente aujourd'hui, le Congo donne l'impression de s'être endetté pour faire la fête, car en dehors du train de vie luxueux et clinquant des privilégiés du pouvoir, peu de réalisations rappellent aux Congolais que leur pays a longtemps figuré au troisième rang des producteurs subsahariens d'or noir. Les signes d'un pays bien géré se perçoivent à travers les écoles construites pour donner une bonne éducation à la jeunesse, à travers les hôpitaux où se soignent les citoyens, et non dans les facilités que s'octroient les dirigeants et leurs clans.
Bon, mais Jean-Baptiste, ces dirigeants ont tout de même réalisé quelques infrastructures, alors peut-être qu'ils n'en ont pas fait assez.
Denis Sassou Nguesso, faut-il le rappeler, dirige le Congo depuis 1979, avec une petite parenthèse démocratique entre 1992 et 1997. Lorsque l'on s'impose aussi longtemps à son peuple, on se doit au moins de satisfaire ses besoins fondamentaux. Beaucoup en Afrique critiquent le régime de Paul Kagame au Rwanda pour ses insuffisances démocratiques. Mais tout aussi nombreux sont les Africains qui, ayant découvert son pays, en tout cas la capitale, se disent que ce régime autoritaire se soucie au moins du bien-être de sa population. C'est à cette seule et unique condition que les peuples peuvent tolérer les régimes qui s'éternisent, sans quoi l'on n'a que des dictatures stériles. La jeunesse du continent ne peut plus subir durablement des dirigeants qui ne lui apportent rien ou si peu. Dans son discours d'adieu au peuple américain ce mercredi, Joe Biden a insisté sur les dangers de la concentration du pouvoir politique et économique aux mains d'une oligarchie. Cela est valable pour les États-Unis, cela est aussi pour chaque pays d'Afrique. Au moment où Denis Sassou Nguesso arrivait au pouvoir, le président des États-Unis s'appelait Jimmy Carter. De Carter à Biden, l'actuel chef de l'État congolais aura vu passer 8 présidents des États-Unis et 6 chefs d'État français. La liste de tout ce dont manque le peuple congolais n'a d'égal que le temps passé par ce seul et même homme à leur tête.
Sauf que le Congo n'est pas non plus immensément riche.
Il est loin d'être un pays pauvre. Après plus de 40 ans à gérer la manne pétrolière, lorsque l'on vous parle du Congo, l'on n'entend que dettes et quelques maigres infrastructures insuffisantes. La Norvège, par une gestion méticuleuse de son pétrole, a su créer un fonds souverain géré dans la transparence, aujourd'hui le plus important au monde, totalisant l'équivalent de 1 700 milliards d'euros. Ce pays assure une bonne éducation à sa jeunesse, un système de santé efficace pour sa population et réussit des prouesses en matière de transition énergétique et d'innovation. À sa petite échelle, le Congo aurait pu faire de son pétrole un tremplin pour l'avenir de ses enfants. Autre exemple, le Qatar, qui a su tirer profit de ses ressources gazières et pétrolières pour se propulser au rang des pays les plus riches du monde. Il n'est certes pas exempt de critiques, mais il a su faire fructifier la manne pétrolière et préparer l'avenir pour les générations futures. En Afrique, le Ghana, qui n'a pas l'immensité des réserves pétrolières du Congo, s'est efforcé par une gestion transparente et responsable de ses ressources naturelles à poser les bases d'une économie plus diversifiée et d'une démocratie irréversible. Le Congo, pour espérer rompre avec le sous-développement intégral, doit commencer par oser le courage de ne pas se tromper de diagnostic.
La semaine de Jean-Baptiste Placat à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Qu'est-ce que les mots nous évoquent? Comment résonnent-ils en nous? Des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher. Ça s'appelle Un mot, une histoire et un micro, celui de Lucie Bouteloup.
J'ai remarqué que je l'utilise beaucoup en fait dans mes textes. Si j'essayais de reprendre ça en créole haïtien, par exemple, je pourrais dire de l'eau la vie. Vous voyez, l'eau de la vie, littéralement.
Pour lui, l'écriture, c'est comme un torrent intérieur. Un flot qui jaillit et qui peut prendre toutes les formes. Poète, romancier, mais aussi dramaturge, il a d'ailleurs remporté le prix RFI Théâtre pour sa pièce Opéra Poussière, l'haïtien Jean d'Amérique déploie à nouveau sa poésie et il revient cette fois avec un album « Pansement de lumière ». Je l'ai rencontré après une performance organisée par la Maison de la Poésie à Paris et il a choisi pour cet épisode de me parler d'un mot synonyme de lumière et de vitalité.
Une histoire. Lucie Bouteloup.
Moi, j'ai envie de vous parler de sève. C'est un mot déjà qui sonne d'une manière particulière. Je l'aime pour sa musique, sa résonance. Il me fait vibrer quand je le prononce. Ah, j'ai envie de le redire. Sève, sève, sève. Comme une incantation. Moi, je suis très attaché à la musique des mots. Quand j'écris, il y a un rythme qui se met en marche. Des fois, je dis mes textes à haute voix pour moi-même, parce que quand je prononce un mot, j'appelle toutes ces possibilités de musique. J'aime ce mot parce que c'est la flamme intérieure, c'est le sang qui garde vivant, c'est le feu qui tient debout. En fait, la sève, ça vient de l'arbre, donc c'est la vie, en fait.
La sève, c'est cet élan de vie, comme vous venez de le dire, et puis on pense aussi à la sève qui irrigue peut-être votre inspiration.
Les mots sont ma sève en quelque sorte, parce que je travaille avec. Et puis, oui, l'inspiration qui vient de la vie pour moi, parce que j'écris ancré dans le réel. Et la sève des mots aussi, c'est ce qui va nourrir notre esprit. Voilà, ça va germer de nouvelles choses et faire fleurir nos consciences et nous donner de bons fruits, des fruits de lumière.
Je veux un pansement de lumière pour effacer mes entailles.
Qu'est-ce que ce mot « sève » dit de vous, Jean d'Amérique ?
Je suis quelqu'un qui est très intérieur. Vous voyez, la sève, c'est quelque chose qui te nourrit à l'intérieur et qui te fait respirer, qui te fait tenir debout. Et du coup, dans tout ce que j'écris, je sens que ça passe par mon corps, ça passe par mes veines. Je sens mon sang en mouvement. Et du coup, les mots que je vais utiliser doivent être chargés de cette force-là. Je n'écris pas juste pour écrire. Ce que je partage, je dois m'assurer que ça peut nourrir les gens et faire grandir leurs arbres de vie.
Selon le Trésor de la langue française, le mot sève définit le milieu intérieur fluide des plantes vasculaires dotées d'un double appareil circulatoire et qui assurent leur nutrition et leur croissance. Au sens figuré, la sève désigne également l'élan vital.
C'était un mot, une histoire.
Avec aujourd'hui Jean d'Amérique, que vous pourrez retrouver en concert pour la sortie de son nouvel album Pansement de Lumière en Suisse avec une date à Bâle le 30 janvier, mais aussi en France le 11 février à Toulouse, le 6 mars à Ganges ou encore le 13 juin à Douai. Pour mon grand retour, Benoît Raymond, le maître des horloges, m'a laissé 30 secondes pour remercier tout le monde. Merci à lui pour cette édition d'Afrique Midi. Rédaction en chef Karine Franck avec Cécile Pirillard. À suivre le journal international en français, sauf en Afrique de l'Ouest où vous attendent 30 minutes d'informations en full day. Et en Afrique lusophone où vous avez rendez-vous avec une demi-heure d'infos en portugais. C'est aussi ça la richesse de Radio France Internationale. J'aurai le même plaisir à vous retrouver à 17h temps universel pour un prochain journal. D'ici là, portez-vous bien. Une minute de pause et le retour de l'actualité sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Bruno Faure.
Nous recevons le patron des patrons du Cameroun, Célestin Tawamba, fondateur d'un grand groupe dans l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. engagé pour le développement de son pays et de ses entreprises. Il appelle à des réformes profondes de la gouvernance en Afrique.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Walid Slaibi, Ogarit Younan, un couple hors du commun. 40 ans d'amour et de militantisme pour la paix. Ensemble, ils ont fondé l'Académie universitaire pour la non-violence et les droits humains dans leur cher pays, le Liban. Oui à la résistance, non à la violence est leur mantra.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.